36 584 399 Français ont voté dimanche 22 avril et vous en étiez certainement. En tous les cas, abstentionniste ou pas, bonjour et bienvenue pour ce 19e numéro de Présidence, votre émission politique sur les ondes de Transistor. Toute l'année, nous vous avons parlé politique, recevant toutes les formations importantes du paysage français, évoquant de nombreux thèmes, de l'éducation à la dépendance du grand âge en passant par l'économie ou l'agriculture. Alors forcément, l'entre-deux-tours venu, nous n'allons pas vous laisser esseuler face à ce choix crucial qui vous attend dimanche 6 mai. C'est pourquoi nous vous proposons pas un, mais deux rendez-vous cette semaine. Un débat tout d'abord disponible exceptionnellement depuis dimanche sur notre site, et qui a rassemblé Romain Billard, responsable adjoint des Jeunes Populaires du Rhône, et Thibaut Roche, responsable du mouvement des Jeunes Socialistes du Rhône, autour de trois thèmes: emploi et pouvoir d'achat, éducation et culture, et enfin, Europe. En plus de ce débat riche et animé, à découvrir sur la page Présidence, nous vous proposons une émission pour revenir sur les résultats du premier tour et envisager les enjeux du second. Autour de moi, des voix qui vous sont familières. Pauline, d'abord, qui vous a préparé un portrait de la semaine spécial entre deux tours, à découvrir tout à l'heure. Bonjour Pauline.
Bonjour tout le monde.
Louis, ensuite, qui a déjà participé à des tables rondes de la rédaction de Transistor et qui nous avait aidé à préparer l'émission avec Louis Alliot, diffusée début mars. Alors, j'avais pas eu l'occasion de te remercier, sinon en privé. Du moins, j'avais oublié de le faire à la fin de l'émission. Donc, je le tiens à le faire en te disant bonjour et donc merci, Louis.
Bonjour et merci, Thomas.
De retour également parmi nous. Cela fait longtemps qu'il n'est pas venu enregistrer en studio. Exil à Jérusalem oblige, mais il nous a envoyé son carnet de campagne tout de même. Il est venu exprès de Paris pour cette émission. Merci donc Amos, décidément c'est l'émission des remerciements. Bonjour Amos.
Bonjour à tous, merci Thomas.
Alors désolé mais j'ai aucun remerciement pour toi.
C'est pas grave, bonjour à tous quand
Jérôme.
Même.
Mais on te retrouve avec joie, surtout mais que oui. Tu as brillé aux écrits de...
On s'en verra.
C'est sûr, c'est sûr. Et enfin, une voix qui vous est peut-être moins connue, celle d'Andrea, co-responsable des Jeunes du Front de Gauche. Bonjour Andrea.
Bonjour.
Alors le tour de table est terminé. Allons maintenant faire le tour des bureaux de vote. J'ouvrais tout à l'heure l'émission avec le nombre d'électeurs qui se sont déplacés pour accomplir leurs devoirs civiques et citoyens. On la disait ennuyeuse, molle, parfois trop technique, souvent dure et polémique. Et pourtant, le taux d'abstention, 20,52%, est assez faible, ce qui fait que cette vieille dame est ennuyeuse, molle, parfois trop technique, vous l'avez compris, la campagne, elle était peut-être pas si inintéressante que ça, non ? Quel mot vous vient à l'esprit pour qualifier cette campagne, Andrea ?
Bon, bah, tout d'abord, moi, effectivement, le taux d'abstention est assez faible comparé à d'autres élections précédentes. Néanmoins, moi, je me réserve toujours très peu de temps à commenter l'abstention, puisque tous les partis politiques s'accaparent et interprètent de manière totalement illégitime l'abstention des citoyens. Moi, je pense plutôt qu'il faut un travail d'éducation populaire pour bien montrer aux citoyens que le vote, ça compte.
Un adjectif pour qualifier la campagne et développe, parce que autour de la table, t'es le seul véritable militant. Donc comment t'as vécu la campagne de l'intérieur ?
J'ai souvent l'habitude de débattre avec des gens qui ne sont pas encartés, qui se cachent derrière souvent des courants politiques, etc. Donc je suis le seul à m'afficher ici et j'ai l'impression que dans cette campagne présidentielle, le seul vraiment à avoir développé de nouvelles idées, c'était Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Bon, on le voit très bien, tous les autres partis... Nicolas Sarkozy prône l'austérité, on l'a vu. Marine Le Pen souhaite un plan d'austérité, souhaitait, puisqu'elle a heureusement n'a pas atteint le second tour, une économie de 50 milliards d'euros. François Bayrou, lui, au moins, il était très sincère, puisqu'il voulait faire un plan d'austérité 4 fois supérieur à celui de M. Fillon. Quant à M. Hollande, eh ben, toujours la même chose. Lui, il prenait la rigueur dans le bon sens.
Sinon, un D'accord. adjectif pour la campagne ?
Molle, sauf Mélenchon, on va dire.
Voilà,
comme
merci,
adjectif.
On a compris. Louis, un adjectif pour qualifier cette campagne ?
Je trouve que cette campagne est relativement décevante, mais que néanmoins,
Tu exagères lorsque tu mets en avant le faible taux d'abstention. C'est vrai que l'abstention a reculé par rapport à 2002. Maintenant, elle est néanmoins plus importante qu'elle ne l'était en 2007. Et si elle est, à mon avis, c'est pour une raison qui est importante. Et peut-être que là, je vais retrouver Andreas. Et ce n'est pas,
elle c'est est à un niveau comparable à celle de 80, par exemple. Pour comparer, c'est à peu près le même niveau qu'en 80. Mais c'est vrai que le record presque historique, c'est 2007, ce qu'il y avait eu en précédent en 65.
Mais si, à mon avis, malgré tout, l'abstention reste importante dans le pays, c'est parce qu'on a affaire à une bipolarisation de plus en plus importante du champ politique au profit des grands partis de droite et des grands partis de gauche. D'ailleurs, comparons par rapport à 2002. En 2002, la droite républicaine faisait 19%, la gauche du Parti socialiste faisait 16%. On a désormais Sarkozy qui est à 27% et M. Hollande qui est à 28%, au détriment des formations politiques qui devraient s'exprimer normalement dans le cadre démocratique, que ce soit Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou alors François Bayrou. Je crois que c'est ça qui caractérise la campagne. C'est une bipolarisation qui se fait sous le cache-misère du vote.
Un adjectif, Pauline, pour la campagne ?
Un adjectif, oui, décevant. Je suis assez d'accord. Rocambolesque également, quand même. C'était une saga qu'il était intéressant de suivre. Cependant, je reviendrai sur le caractère démocratique ou non de ce type aujourd'hui d'élection. Je dirais tout simplement que Marine Le Pen a fait une remarque qui m'a semblé très pertinente, mais en même temps très flippante, si j'ose dire. Elle a dit que tout se jouerait finalement aux législatives et que c'était le troisième tour des présidentielles. Et je trouve que, dans le cadre du quinquennat maintenant et des législatives qui suivent pratiquement dans la foulée les présidentielles, il est intéressant de se souvenir tout simplement de cette remarque. Parce que justement, ce sont les législatives qui vont peut-être permettre de refaire le point sur véritablement la vitalité démocratique de notre pays et véritablement également la représentation politique des Français. En même temps, il me semble que c'est quand même grave. Voilà.
Tout n'est donc pas fini le 6 mai, chers auditeurs, mais on va demander son adjectif à Jérôme.
La campagne a été complètement surréaliste.
Décidément, il n'y a quand même pas beaucoup d'optimistes autour de la table.
Non, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est passé à côté des sujets principaux et que l'urgence économique, l'urgence écologique, ce sont des choses vraiment essentielles dont on a assez peu entendu parler. Et également les questions internationales. On a vraiment eu l'impression d'un tapis de bombe, comme on dit désormais, de polémiques par-ci par-là, des petites phrases et je sais pas, le halal par-ci, et puis la fermeture de l'espace Schengen. Le mot race dans la Constitution, et à côté de ça, vraiment un déni de réalité sur ce qui nous attend, sur les milliers de milliards de dettes et de déficits qui nous attendent, et je trouve que c'est complètement exorbitant qu'on ne parle pas de ça, et que, quel que soit l'élu à venir, il y aura sans doute des lendemains qui vont déchanter.
Bon, alors j'ai peine à me tourner vers toi, Amos, parce qu'en ayant écouté tes carnets de campagne, on sait que tu ne vas pas me répondre que tu trouves la campagne joyeuse, magnifique, parfaite. C'est quoi ton adjectif à toi ?
J'aurais aimé dire enthousiasmante, mais malheureusement, je vais dire inquiétante. Dans une période de crise extrêmement forte, assez unique, et on a eu le droit à une campagne de premier tour, et également de second tour finalement, qui se fait autour de la personnalité d'un homme, de Nicolas Sarkozy. À partir de là, François Hollande fait l'infra-présence, enfin, en dessous, pour être le creux de Nicolas Sarkozy, qui lui, ne manque pas de faire l'homme fort, hyper présent. On a deux hommes qui se disputent sur des questions vraiment de mecs qui veulent sortir ou non leur biscotto. Mais la question n'est vraiment, vraiment pas là.
Alors justement, on va se concentrer sur, avant de parler des autres candidats, sur le couple qui est sorti vainqueur de ce premier tour, Nicolas Sarkozy. Donc, première fois qu'un président en exercice est battu, tout le monde l'a dit, donc comme ça, on s'en débarrasse. 27,18%, donc juste derrière François Hollande, favori désigné, avec 28,63%. Alors, je vous pose une question très simple. La réponse l'est peut-être moins. François Hollande a-t-il d'ores et déjà gagné les présidentielles ?
Oui, moi je crois que... Rien n'est jamais gagné, mais cette élection s'est faite autour du rejet du sarkozysme. François Hollande lui doit son joli score du premier tour, Marine Le Pen son triomphe, Jean-Luc Mélenchon son modeste succès. Et je pense que, étonnamment, Hollande peut gagner et va gagner les élections, alors que pourtant la gauche est fortement minoritaire dans le pays. C'est ça qui est assez étonnant, si on fait le total des voix aujourd'hui qui se sont exprimées à droite, même en excluant le vote François Bayrou, on a une droite qui est aux alentours de 47% et une gauche qui est à 43%.
Alors ça, je vois Andréa,
la droite balkanisée va perdre le pays.
C'est à considérer que les 18% d'électeurs qui ont voté Marine Le Pen voteront pour le candidat de droite au second tour, ce qui n'est pas nécessaire.
Non, ce qui n'est pas nécessaire, aux alentours de 70% aujourd'hui, bien sûr.
Andréa, je te voyais hocher de la tête de manière dubitative.
Oui, je trouve que le dire que la droite est majoritaire dans ce pays est faux. On l'a vu, le total des voix de gauche a considérablement augmenté dans cette élection présidentielle. Alors Hollande, lui, stagne par rapport à 2007 et au niveau du total de voix. Quant à Jean-Luc Mélenchon, lui, a augmenté considérablement le total des voix de gauche, puisque lorsqu'on comptabilise la progression des voix de gauche, Jean-Luc Mélenchon représente les trois quarts de cette progression des voix de gauche.
Moi, je ne suis pas d'accord. Je me suis livré à un petit calcul ce matin dans le train.
Avec Christophe Barbier ou...
Comparons les chiffres de 2012 à ceux de 2002. En 2002, la gauche du PS, totalise 14% des votes. Si on additionne les chiffres de M. Mélenchon et des autres candidats de l'extrême gauche, il est à 13%. Elle est à 13%. Oui. Jean-Luc Mélenchon réussit à capter les voix trotskistes, mais en revanche, l'extrême gauche, elle, perd des forces.
Oui, non, c'est faux, puisqu'on remarque que depuis 2002, il y a eu 5 millions de nouveaux électeurs dans ce pays. Et moi, je parle du total des voix et non pas des pourcentages, ce qui n'est absolument pas la même chose. Je parle des voix et non pas des pourcentages. Et il est à noter aussi que Nicolas Sarkozy perd des voix, énormément de voix par rapport à 2007, malgré le fait que son score en pourcentage soit élevé. Il faut analyser en termes de voix.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'avais prévu deux émissions. Un débat qui a été très 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 sympa, hein. Vous verrez, c'est 1h30, c'est très riche, c'est moyennement animé. Et une émission, je me disais, oh, ça va être sympa, on va se retrouver, on va parler des chiffres, et vous vous engueulez comme dans un débat. Bon, moi, c'est très bien. Je vais demander à Amos peut-être de réagir à la question. François Hollande a-t-il déjà gagné? Est-ce que tout le monde est d'accord autour de la table pour dire que le 6 mai...
Il a clairement pas encore gagné. Hein, tant que Julien Drey peut faire son anniversaire, il peut perdre. On ne sait pas ce qui peut se passer d'ici le 6 mai.
Tout le monde n'est pas d'accord,
mais,
très bien.
Mais a priori, si les choses restent en état, vraisemblablement, François Hollande va gagner l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy fait beaucoup pour la perdre d'ailleurs. Le seul problème, c'est que c'est un peu comme dans Habemus Papam. Et je ne suis pas sûr qu'il ait très envie de se retrouver le 7 mai, étant donné ce qui risque de lui tomber dessus.
Michel Piccoli ou François Hollande? Pauline?
Non, enfin, moi je ne suis pas du tout persuadée que François Hollande ait encore gagné. Tant qu'on n'y est pas, rien n'est joué. Que tout peut encore se passer.
Le secret de l'isoloir.
Voilà. On a déjà connu des cas où on a eu de mauvaises surprises. Ensuite, tout simplement parce que j'attends avec un peu frayeur le débat de mercredi. Dans la mesure où...
C'est-à-dire d'aujourd'hui
Oui, bien sûr, pardon, de ce soir, évidemment, mais tout simplement parce que je pense que Sarkozy est un très bon rhéteur, même s'il a évidemment perdu beaucoup de force, perdu beaucoup de crédibilité, qu'il n'a pas eu les trois débats qu'il comptait, et heureusement d'ailleurs, il va, je pense, mettre tout dans cette journée, dans cette soirée, et il est vrai que face à lui, je pense que Hollande, et Dieu sait si je l'apprécie, n'est pas forcément un fin orateur, et là encore, du reste, je pense que quand on parle de la campagne présidentielle, par exemple, on s'attarde beaucoup au débat, au discours, à la manière que les candidats ou leurs porte-parole ont de s'exprimer, moins au contenu déjà. Mais j'aimerais bien aussi qu'on se souvienne tout simplement de l'importance des actes. Et j'espère aussi que les gens qui verront Nicolas Sarkozy par lui mercredi et qui pourraient éventuellement être convaincus par ses discours se souviendront de la façon dont il n'a pas agi pendant 5 ans.
Alors justement, le débat d'aujourd'hui oppose deux personnalités fortes, deux personnalités avec leurs qualités et leurs défauts. Alors on va faire rapidement un tour de table. On va commencer par François Hollande puisque c'est le favori et qu'on parle de lui plus tout à l'heure. Pauline, je te redonne la parole. Quel est le défaut et la qualité que tu trouves dans la personnalité de François Hollande?
Alors il va de soi que ce genre de question s'adresse à ma subjectivité, donc je pourrais dire peut-être un défaut et une qualité que d'autres ne percevront pas chez lui.
Oui, bien sûr.
Voilà.
C'est fait pour ça, on est suffisamment nombreux pour que ça se retrouve.
J'avoue que j'aurais un peu des difficultés. Je pense qu'une grande difficulté de François Hollande, où il y en a peut-être deux, c'est à la fois sa sorte de mollesse, un peu, qui reste toujours, et également son passif ou son historique, où il traîne quand même cette figure d'homme bonhomme qui a eu du mal à s'imposer pendant tant de temps, qui reste malgré le fait qu'il s'est vraiment métamorphosé. Et justement, en point positif, je dirais qu'il a accompli une métamorphose quand même ces derniers mois qu'il ne convient pas. Enfin, qu'il convient de ne pas négliger. Je le pense
et tu
également.
Tu parles pas que de son régime là.
Non, pas que de son régime, même si évidemment ça va de pair avec, hein, oui. Puisque le changement physique marque aussi un changement psychologique. Hein. Mais bon, on va pas rentrer dans les débats régime pré-estivaux, n'est-ce pas? En point positif, ce que j'aime beaucoup dans François Hollande, c'est aussi qu'il rappelle l'importance des idées. Il n'a pas une personne qui peut vraiment fédérer, qui n'est pas très charismatique, par exemple, ce que je ne considère pas comme un véritable défaut d'un point de vue intellectuel. Et du coup, contrairement à ça, il marque sa raison, sa rationalité presque. Je pense qu'il montre aussi que quand on élit un président, on élit en fait une équipe, on élit un parti, un programme, et pas une personne simplement.
Alors peut-être un tout petit peu plus court. Un défaut et une qualité pour toi, Louis, chez François Hollande.
Chez François Hollande,
oui.
Moi, je m'éloignerai de Pauline, qui, je trouve, est dans la communication politique à outrance. Je dirais que son principal défaut, c'est l'indécision. Et en cela, il est à l'image de son parti politique. Tu disais, Pauline, que gouverner, c'est se fait avec une équipe, oui, mais c'est bien le problème aussi, parce que personne ne sait aujourd'hui quelle sera l'équipe de François Hollande. Entre les propositions de François Hollande et celles de Martine Aubry, il y a parfois un clivage important. Entre celles du Parti Socialiste et du Front de Gauche, éventuellement, s'il y avait une alliance aux législatives, il y en a qui sont conséquentes aussi. Je dirais l'indécision. Quant à ses qualités, je dirais, évidemment, c'est aussi un peu subjectif, mais je dirais l'honnêteté. Moi, je suis convaincu, et c'est sans doute là qu'il y a aussi une différence notable avec le président actuel, que c'est un homme honnête. En tout cas, sa démarche intellectuelle est honnête. Sa campagne a été celle d'un homme honnête.
Andrea, une qualité, un défaut de François Hollande?
Oui, nous, on a fait campagne pour la 6e République, et c'était pour éviter ce genre de questions, justement, sur la personnalisation totale des candidats.
À part d'un parti politique, quand même, qui a érigé le culte de la personnalité... En seul programme, c'est étonnant.
Bon. Oui. Non, c'est complètement faux. Vous savez très bien que dans nos meetings, à l'inverse d'autres partis, les jeunes n'étaient absolument pas infantilisés. Tout ça, là, avec des gens qui sont déjà coulés dans le marbre, se croyant déjà président, ce sont des histoires pour les enfants. Je sais très bien que les Français regardent plutôt le fond. Alors maintenant, sur les personnalités, François Hollande, effectivement, n'a jamais gouverné ce pays. Il n'a jamais eu de poste. Toujours est-il qu'il a une arrogance propre aux grandes écoles.
Amos, très rapidement, qualité défaut, on passera à Nicolas.
C'est la même chose, de toute façon, son plus grand défaut et sa qualité, c'est son manque de charisme, son honnêteté, qui en soi peuvent apparaître comme des défauts pour une élection présidentielle, mais qui en l'occurrence, avec cette situation, après 5 années de présidence de Sarkozy, 10 années de Sarkozy à la tête du pays, c'est une réelle qualité pour être élu président, que cet a priori défaut.
Et si le principal défaut de François Hollande, que personne n'a cité, c'était finalement d'être de gauche? Nicolas Sarkozy parle jamais de son bilan. Et est-ce qu'il n'essaye pas justement, en critiquant François Hollande, non pas sur ce qu'il propose, mais sur ce que la gauche de toute éternité a fait, est-ce qu'il n'essaye pas de lui faire porter le bilan de la gauche, positif ou négatif, mais en tout cas de le faire une sorte de monstre avec 4 têtes, ouais. Delors... Mitterrand, Jospin et la petite tête de François Hollande au milieu.
Je pense que Sarkozy joue sur des peurs du peuple de droite qui est moi ou le chaos. Et si vous élisez François Hollande, vous avez les socialistes, les communistes avec ce couteau entre les dents que semble dénoncer Louis. Il espère que ça va passer. Malheureusement, François Hollande, de par sa candidature orientée au centre, qui justifie la question que posait notre ami Andrea du Front de Gauche, ne peut pas, finalement, ça ne peut pas marcher, cette stratégie de diabolisation François Hollande, monstre de la gauche, dès lors que toute la campagne de François Hollande s'est faite, grosso modo, au centre, si ce n'est du PS, du moins de l'échiquier politique. Même.
Andrea, le bilan de Nicolas Sarkozy, il est si négatif qu'il n'ose même pas le défendre et qu'il préfère justement faire passer François Hollande pour le monstre gauchiste.
Il n'est pas négatif pour tout le monde, il est positif pour une grande partie des très riches. Malheureusement, ils sont très peu nombreux, donc il ne va pas pousser dans cet argumentaire puisqu'il aura très peu de voix. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que personne n'est dupe. Mais de qui se moque Nicolas Sarkozy? Franchement, de qui il se moque? Alors, il souhaite faire 3 débats, il chipote sur les minutes, il souhaite avoir plus de minutes. Il avait 5 ans pour agir pour ce pays. 5 années avec un gouvernement, une assemblée, un Sénat de sa couleur politique. Et vous voyez le bilan, effectivement, il y a du pouvoir d'achat pour les très riches, puisqu'il y en a, il y a une perte considérable du pouvoir d'achat pour la majorité des Français. Il disait qu'à la fin de son quinquennat, il n'y aurait plus de SDF. Voyez le nombre de SDF qu'il y a. Il disait qu'il allait industrialiser, rendre une France forte, etc. Voyez le nombre d'emplois qu'il a perdu, les entreprises délocalisées. C'est une catastrophe. Ce président, cette équipe, alors j'entendais tout à l'heure, je crois que c'était Louis qui disait que personne ne connaissait l'équipe de Hollande, c'est vrai. Toujours est-il que nous, on connaît très bien l'équipe de Nicolas Sarkozy et la droite qui gouverne ce pays depuis pas 5 ans, mais 10 ans.
Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dénoncer le bilan du sarkozisme, évidemment. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que Nicolas Sarkozy, à certains égards, s'inscrit aussi dans la lignée de la politique de gauche. Les 35 heures, par exemple. 35 heures honnies par Nicolas Sarkozy, dénoncées par Nicolas Sarkozy. Lorsque le président a défiscalisé les heures supplémentaires, il a sacralisé les 35 heures en même temps. Il est allé plus loin que jamais aucun ministre de gauche n'avait osé le faire. Bon. Maintenant, sur cette question aussi de François Hollande et de la gauche. Non, je pense que François, justement, la force de François Hollande, Mauss a tout à fait raison, c'est d'être un homme, c'est d'être resté un homme du centre, bref, un homme de la social-démocratie, d'avoir réussi, d'avoir permis au Parti Socialiste de réussir son virage à l'allemande vers la social-démocratie. Mmh. Bon. Et c'est bien le problème du Parti de gauche et du Front de gauche, c'est d'outrer le discours vers le stalinisme, de multiplier les clins d'œil à Fidel Castro, bon,
ou aux dictatures, clins d'œil à Pétain de Nicolas Sarkozy.
Gauche, oui, ben voilà, de dénoncer le pétainisme, etc.
Il a cité Laval, mot pour mot.
Soi-disant collaborationniste.
Évidemment.
Et ce faisant, en réalité, Jean-Luc Mélenchon dessert la candidature de François Hollande et bâtit un mur entre les électeurs de gauche et les électeurs de droite. Au lieu de rassembler une communauté, il divise la France.
Un mot sur le bilan de Nicolas Sarkozy, Jérôme ?
Oui, enfin, dire qu'il n'en parle pas. Je l'ai surtout entendu ces derniers temps se défendre de ce que son bilan ne serait pas si catastrophique que cela.
C'est récent, alors.
Non. Et puis même, il me semble que c'est son équipe qui surtout défend son bilan.
Même dans la campagne du premier tour. Mais en fait, il fait tout le temps ça dans la comparaison par rapport aux autres pays. Regardez l'Italie, regardez l'Espagne, regardez la Grèce. Dire que
oui, il se met dans la posture du sauveur de l'Europe et par là de la France.
Oui, oui, oui. Et c'était déjà la posture qu'il avait adoptée il y a déjà un petit
temps lorsqu'il était président de l'Union européenne. C'est le seul point qu'il semble défendre de son bilan. Alors, c'est l'international.
Ensuite,
l'Europe, quoi. Oui, c'est pas vraiment
en même temps,
la politique interne.
C'est ce qu'il considère, et sans doute à juste titre, comme son point fort par rapport à François Hollande, qui n'a jamais exercé jusque-là de responsabilité.
Sauf que ça n'a jamais fait aucune élection présidentielle de défendre son bilan.
Sans doute pas. Mais en tout cas,
surtout que l'élection était centrée sur des problématiques nationales et pas internationales.
Et sur les problématiques nationales, son couplet, c'était surtout c'est pas nous, c'est la faute à la crise. Mais
je suis pas d'accord. Hein. Il me semble pas que Sarkozy et son équipe justement rejettent tout sur la crise.
À chaque fois, on entend dire c'est la crise qui est passée
non,
par là.
Ce qu'ils font souvent, c'est la comparaison. C'est-à-dire, par exemple, regardez la France, on l'a quand même mieux sauvée qu'ils ne l'ont fait chez les Grecs, chez les Italiens, chez les Espagnols. Ça, oui, ils le disent pas mal. D'ailleurs, on notera aussi que c'est moins Sarkozy qui parle que ses collaborateurs. Et en effet, quand lui-même prend la parole, c'est plutôt dans une forme d'attaque contre Hollande, le PS. Ils reviennent aussi beaucoup sur l'affaire DSK. C'est typique justement
les affaires DSK.
On sort ça du placard. Évidemment, ça pose problème, mais c'est typique de ceux qui n'ont rien à dire pour se défendre par ailleurs. En revanche, je pense justement qu'une des forces de Nicolas Sarkozy, c'est de ne pas tout jeter sur, de ne pas remettre tout sur le dos de la crise. Qu'il mette en avant le fait qu'il est particulièrement difficile de gouverner et gérer un pays dans ce cadre problématique à l'international et à l'européenne. Ils ne fuient pas complètement devant leurs responsabilités non plus.
Alors, justement, j'allais vous demander le même exercice que tout à l'heure pour François Hollande, mais sauf que cette fois-ci, je veux aucun défaut pour Nicolas Sarkozy parce qu'on a bien compris qu'autour de la table, il n'y avait pas vraiment un sarkozyste convaincu. Donc je vais vous demander à tous, même si c'est peut-être difficile pour vous, et je pense à Andrea, de trouver une qualité à Nicolas Sarkozy. Juste une qualité. Parce que pour l'instant, on a l'impression que personne ne daigne lui trouver l'once d'un début de contrepoint.
Peut-être d'avoir fait un enfant. Peut-être d'avoir rehaussé ses talonnettes.
Est-elle bien de lui, la petite fille Julia?
Je ne sais pas non plus, je ne sais pas. Non, franchement, j'ai...
Alors là, j'avais pensé à beaucoup de choses en préparant cette émission.
J'ai franchement du mal à...
Ce n'est pas un argument.
J'ai franchement du mal à donner une qualité à Nicolas Sarkozy. Vous voyez dans quel état est le pays. On parle de la politique internationale,
de la
catastrophe aussi.
C'est peut-être mon côté pervers, mais en préparant l'émission, je me suis dit, je vais poser cette question à Andrea pour voir comment il réagit. Et honnêtement, j'étais presque sûr que tu te défausserais comme ça. Je demandais à Pauline, qui apparemment peut quand même nous trouver une qualité, sinon je vais être obligé de dire des qualités de Nicolas Sarkozy, parce que, excusez-moi, mais cet homme n'est pas le dernier des crétins, il a des qualités tout de même.
Oui, donc contrairement à ce que disait Louis justement tout à l'heure, tu disais que comment François Hollande était honnête voilà, par rapport à Nicolas Sarkozy. Je n'irai pas jusqu'à dire que Nicolas Sarkozy est honnête. En revanche, je dirais qu'il est sincère. Je pense aussi qu'il est dynamique et actif, même s'il a été un peu moins dans ces derniers temps. Il est assez habile communicant. Voilà, on nous dit.
Ou manipulateur.
Ce que je veux dire, c'est qu'en politique, il est difficile de faire la part des choses et des subtilités. Toujours est-il que voilà, il a des qualités réelles. Je disais tout à l'heure de rhéteur.
Par rapport à quoi? Parce que là, ça veut rien dire.
Bah si, enfin dans le sens où par exemple quand tu l'écoutes, enfin toi tu es convaincu par les thèses de Mélenchon ou de la gauche, mais je suis d'accord. Mais n'empêche qu'il arrive à convaincre. Il disait déjà rien en 2007, mais il a quand même convaincu 53% des Français.
On verra s'il va convaincre, on verra sa tête le 6 mai.
Moi je dirais que c'est un excellent candidat d'abord en période électorale et que c'est un homme qui a su s'entourer. Je crois que la politique d'ouverture à gauche, si elle a été finalement un échec, a permis quand même les rares réussites du quinquennat. Pensons notamment aux actions de Martin Hirsch quand même, qu'il faut reconnaître.
Et Kouchner.
C'était des victoires politiques et stratégiques très importantes. C'est ça qui a permis la défaite
MP,
de la gauche quand même.
Bien sûr, la France.
C'est un bon candidat qui a réussi à rassembler en dehors même de son camp politique et ce rassemblement lui a permis de remporter quelques victoires électorales mais aussi victoires politiques.
On voit le nombre de personnes qui désertent. De son bord politique.
Les rats qui toujours le navire entre les deux tours, c'est pas très étonnant non plus.
Reste les Nadine Morano et les Claude Guéant qui restent avec lui, les fidèles, bien sûr.
Un mot sur une qualité très rapidement. Très rapidement.
Je pense que Nicolas Sarkozy est un extraordinaire homme politique, peut-être le meilleur de sa génération, à ses risques et périls. Et il est hyper. Et également, ce qui va de pair, à mon avis, c'est quelqu'un qui est total dans ce qu'il fait. Il va se brûler totalement là, après
il brûle
en 2012, mais je pense que pendant 10 années, on a vu une bête politique.
Alors pour finir avec ce couple Hollande-Sarkozy, il est temps d'écouter ton portrait, Pauline, qui est un portrait croisé pour l'occasion.
J'aime mieux être gentil que méchant parce que dans les films, les méchants perdent toujours. Cette phrase que François Hollande prononçait en 1997 en dit long sur le candidat socialiste à la présidentielle de cette année. Comparant l'existence à un film, l'enfant chéri de Corrèze avoue aimer les happy ends et semble détenir et défendre une vision quelque peu manichéenne du monde. Mais si, indubitablement, la gentillesse est une qualité réelle de François Hollande, saura-t-elle suffire à faire de lui le héros et surtout le vainqueur de cet épisode, il est vrai absolument dramatique, de la vie politique française que représentent les élections présidentielles ? Face à notre socialiste bonhomme et jovial, une figure déjà filmesque, au point d'avoir été objet et personnage de cinéma, rappelons-nous Denis Podalydès, qui, en 2011, dans un film de Xavier Duringer et Patrick Rothman, incarnait un Nicolas Sarkozy partant à la conquête de la présidence de la République lors des élections de 2007. Dans le film, justement, comme dans la vraie vie, face à notre Ségolène nationale candidate du PS, c'est l'enfant modeste de Neuilly qui gagnait. Devait-il sa victoire à sa gentillesse ? À n'en pas douter, dans le scénario Ségo contre Sarko, il était difficile de discerner le bon de la brute. Et si dès cette époque, tous s'accordaient à voir dans le chef de file de l'UMP un homme vif et tranchant, nerveux et agité pour certains, dynamique et déterminé pour d'autres, tous reconnaissaient aussi à la candidate socialiste la force surprenante du chêne et non la fragilité attendue de la rose. Mais à autre élection, autre configuration. Les aventures du petit Nicolas ne sont pas terminées. Et cette fois, celui qui était le candidat providentiel de la droite en 2007, celui qui a réussi à faire croire aux Français qu'il incarnerait la rupture après 12 années de chiracisme, celui qui, au contraire, a offert à la droite 5 années supplémentaires à la tête de la France, celui-là donc, n'est plus simplement candidat, mais bien président-candidat, et malheureusement pour lui, dont une erreur a peut-être été de commencer sa campagne bien tard, plus président que candidat. Impossible désormais de se la jouer Deus ex machina, venu sortir de l'impasse les Français héroïques. Vous savez, la France qui travaille, la France qui se lève tôt, la France qui mérite la sécurité. Aujourd'hui aussi, la France qui travaille vrai. Allez savoir ce que ça veut dire. Non, Saint-Nicolas n'existe plus. Saint-Nicolas a trop distribué de petits cadeaux et autres bonbons aux enfants de Neuilly, de la Jet Set et du Star System. Dans sa hotte, bouclier fiscal, légion d'honneur et nomination à la tête d'entreprise publique. Le problème ici n'est pas de savoir si Sarko a irrémédiablement viré davantage brut que bon. Non, c'est juste qu'en fin de mandat, les Français font les comptes de promesses faites et non tenues ou tenues à moitié, telle la réforme des universités qui a mené à leur autonomie, mais sans en imposer la sélection à l'entrée. Ou encore les réformes faites sans avoir été promises ou programmées, le report de l'âge de la retraite ou la suppression, finalement partielle, de la publicité sur les chaînes publiques. Méfiance et défiance sont donc plus que jamais au rendez-vous. Heure du bilan et heure du jugement se chevauchent dramatiquement, se confondent inéluctablement. Preuve s'il en était besoin, son échec à majorer le premier tour des élections le 22 avril dernier. Non pas brut, ni bon, mais juste truand. En face, les joues rosissent de plaisir. Comprenez, les socialistes et la gauche en général se frottent les mains et nous autres Français moyens, on voit déjà l'affiche sur laquelle les dates se répondent. 21 avril 2002, 10 ans et un jour après, ou Parti Socialiste, le retour. Et Hollande de ce François Cizé, fini le mec bedonnant accro aux bons mots et au chocolat, presque autant qu'au compromis et à l'indécision. Fini l'homme qui ronge son frein à l'ombre de la jeune fille en fleurs devenue la rose faite femme. Et nous d'imaginer la réplique culte de ce qui s'apparente toujours davantage à un vaudeville. Ségolène Mamie, je suis venue te dire que je m'en vais et allons voir si la rose. Fini aussi le gars qui ne croit qu'aux circonstances et aux opportunités et qui, il y a peu encore, ne proposait aux Français que d'aller voir si la rose n'avait pas perdu de son éclat au lieu de le créer lui-même, cet éclat. Désormais, l'ancien leader du PS y croit, sans non plus tomber dans un excès de confiance ni de vanité. À rebours d'un Nicolas Sarkozy qui a tendance à tabler sur l'émotionnel, François Hollande affirme sa foi en la raison. Là où le président candidat met en relief sa personne et son humanité, l'enfant prodigue du Parti Socialiste insiste sur les idées. Je suis contre le narcissisme en politique. Je ne crois pas au rapport singulier d'un homme ou d'une femme avec le peuple. Je crois aux idées, a-t-il dit un jour. Et c'est peut-être là pourtant que le bât blesse. En effet, une élection présidentielle dans une société contemporaine médiatisée repose par définition sur un rapport singulier d'un homme ou d'une femme avec le peuple, et peut-être plus encore en France où, historiquement, le président incarne la figure du père et d'homme providentiel, et où le suffrage est direct et universel. Or, François Hollande semble oublier cet aspect pourtant primordial de la psyché politique française, et lorsqu'il se définit lui-même comme étant ou bien un homme normal ou bien un homme neuf, insistant dans ce dernier cas sur la mue qu'il a opérée afin d'être présidentiable, mue physique aussi bien que psychologique et relationnelle, il néglige la part de spectacle et de drame qui sous-tend l'élection du président de la République en France. Il met de côté, et consciemment, la dimension héroïque de la figure de président et le caractère exceptionnel de son destin. « J'aime mieux être gentil que méchant, parce que dans les films, les méchants perdent toujours », disait-il en 1997. 15 ans plus tard, il ferait bien de s'en souvenir. Ce souvenir, non pas d'être gentil, celui qu'on a longtemps surnommé « simplet », c'est encore faire de ses qualités d'écoute et de tolérance, ainsi que de sa personnalité plutôt agréable, son fond de commerce. Mais se souvenir qu'en matière de politique, et plus encore d'élections présidentielles françaises, le cinéma n'est jamais loin, qui ne fait pas tant gagner les gentils que les héros. Alors, qui de François ou de Nico nous fait rêver aujourd'hui? Et là, on voit bien le problème. Pour beaucoup, Sarkozy a toujours été ou est devenu un cauchemar vivant. Hollande sera fort, sans doute, des votes sanctions. Rien n'est joué. Mais le vrai problème ne viendrait-il pas si Hollande gagne finalement? En effet, quelle fierté à gagner par défaut. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Merci beaucoup Pauline, comme d'habitude. De toute façon, ça a été une très belle galerie de portraits, parfois polémiques. En tout cas, deux hommes, on l'a bien compris, et qui s'affrontent donc ce soir, mercredi. Et une femme qui détient peut-être les clés de ce scrutin, ou plutôt ses 6 millions 421 000,
lapsus,
773 électeurs précisément. Cette femme, c'est Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen a presque 18%. C'est grave, docteur? Je pose la question à Louis.
Non, ce n'est pas grave, parce que les résultats en démocratie ne sont pas graves. Ils disent un moment de la vie politique, ils disent un rapport de force dans le pays. Ce qui est étonnant, c'est que Marine Le Pen, et je crois que tout le monde autour de cette table pourra s'en féliciter, Marine Le Pen accomplit un score excellent, alors que le Front National est en train d'accomplir sa mue. Il est en train de se modifier, il est en train de changer. Les scores où le Front, les lieux où les régions où le Front National était le plus haut, les régions où le Front National était ancré dans le paysage politique, où c'est un Front National dur, c'est-à-dire les pourtours de Lyon et l'Alsace, donc le fief de Bruno Gollnisch et les terres extrémistes, sont des terres où aujourd'hui le Front National est en décrue et de façon assez importante. Bon, les terres où il est en train de gagner, ce sont des terres où il était assez bas, l'Auvergne, la Bretagne. Le Front National désormais touche tout le territoire, il touche tous les âges, c'est parti assez jeune, c'est au-delà de 60 ans qu'on vote le moins pour le Front National, à 14%, et il touche tous les niveaux de vie, hommes comme femmes. C'est un vote qui est en train de se nationaliser.
On devrait se féliciter du fait que maintenant le Front National de Marine Le Pen touche tout le monde.
Oui, c'est parce que le Front National de Marine Le Pen, c'est plus le Front National de Jean-Marie Le Pen. C'est un parti qui est en train de se transformer. C'est un parti qui finit de se républicaniser. Et ça, je crois que tout le monde s'en félicite. Enfin, tous les démocrates dont tu fais partie, non ?
Nicolas Sarkozy s'en est félicité en considérant que le Front National était compatible avec la République. Ce n'est pas parce que l'actuel président de la République, qui ne l'est plus vraisemblablement pour très longtemps, dit cela que c'est une vérité.
Enfin, Nicolas Sarkozy, arrêtons un petit peu quand même les hypocrisies, n'est pas le seul à s'adresser aux électeurs du Front National. J'ai là, par exemple, une interview de Madame Royal donnée dans Libération, le 24 avril. Elle s'adresse, je cite Madame Royal, ce qui n'arrive pas souvent, prenez note. Elle s'adresse à l'électorat du Front National, dont une part vient de la gauche et devrait se retrouver du côté du progrès, de l'égalité, du changement, de l'effort partagé, de la justice, parce qu'il est contre les privilèges, contre la mondialisation financière, contre une Europe défaillante. C'est du Royal, ça pourrait tout à fait être du Le Pen.
Oui, ben justement, je crois que là, on pointe un des gros problèmes des partis aujourd'hui en France, c'est les amalgames qui sont faits, l'incapacité à se définir, et pour tous. Et tu disais que le FN en était en voie de républicanisation, et peut-être même en fin de républicanisation. En effet, démocrates que nous sommes, nous devrions nous en réjouir. En même temps, c'est ce qu'on a souvent dit, par exemple, par rapport au FN de Marine Le Pen, par rapport à celui de son père, c'est tout simplement le fait qu'il est devenu plus fréquentable, qu'il a abordé des thèmes qui, avant, étaient plutôt tabous. De fait, on ne peut pas nier, ce sont des faits. Après, est-ce que dans les conséquences, on doit s'en féliciter ? Je n'en suis pas sûre. Là où, en revanche, Nicolas Sarkozy avait raison, c'est de dire qu'on ne doit pas se boucher le nez devant les électeurs du FN. Il est normal que, tous les partis, donc, en l'occurrence PS et UMP, donc Hollande d'un côté, Sarkozy de l'autre, fassent du racolage, donc à y chasser sur ce qu'on appelle les terres du FN pour pouvoir avoir des électeurs. Nous sommes en politique. En même temps, il ne faut pas se tromper non plus de débat. Ce que tu as dit là tout de suite en citant Madame Royal, tu disais que ça pouvait être aussi bien du Le Pen. J'en suis pas convaincue du tout, en fait.
J'aimerais bien avoir l'avis de Jérôme, qu'on entend assez peu.
C'est un avertissement très sérieux. On l'a assez souligné, c'est le plus haut score qui a été fait par le Front National à une élection présidentielle.
Donc toi, tu te félicites pas de...
Ah non, je m'en félicite pas du tout. Non, mais je pense que les extrêmes n'ont jamais abouti à quoi que ce soit de bon dans la vie politique.
Alors là, c'est le centriste qui parle.
Oui, mais le problème, c'est qu'on n'arrive même plus à voir si aujourd'hui le FN est vraiment extrême, en fait.
Toute la dangerosité, elle est là, c'est que le FN de papa, il n'aurait pas pu arriver au pouvoir pour la simple et bonne raison qu'il était clairement, évidemment, hors de la République. Alors que le FN de Marine Le Pen, avec ce beau déguisement républicain qui permet à Marine Le Pen de tenir des discours comme ceux du Parti Socialiste et pas l'inverse, parce que c'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle se drape sous le drapeau de Marianne, ce qui est dégueulasse. Alors qu'au fond, deux secondes, les idées de Marine Le Pen sont les mêmes et sur des grandes questions.
Front contre front, celui qui normalement voulait battre Marine Le Pen, c'était Jean-Luc Mélenchon et le Front de Gauche. Donc, est-ce que c'est vraiment grave les 18% de Marine Le Pen, Andréa ?
Bah c'est grave, oui, après. Parce que même à 2%, pour nous, c'est trop encore. Donc, simplement pour vous dire, on fait la différence. Marine Le Pen, c'est différent que Jean-Marie, etc. La seule différence, c'est qu'elle a un œil de plus que lui. Tout le reste, c'est pareil.
Et que c'est une femme.
Et je vais vous dire un truc. Il faut relativiser clairement les choses. Un, on a dédiabolisé totalement le Front National. Et ça, il faut voir les médiacrates et les perruques poudrées des médias qui ont cessé de dire que Marine Le Pen était fréquentable. Deuxièmement, concernant...
Alors juste, je t'arrête là. Est-ce que le problème, ça n'a pas été justement que pendant très longtemps, les médiacrates dont tu parles ne l'ont pas reçu et qu'elle s'est forgée une image, c'est eux-mêmes qui l'ont diabolisée. Donc c'est simple, parfois, juste après tu continueras, c'est parfois simple de taper sur les médias en disant « ils ont diabolisé Marine Le Pen en ne l'invitant pas » et ensuite de leur taper dessus en disant eh « ben, ils l'ont trop invité ».
Pas qu'ils l'aient trop invité ou quoi, c'est pas ça la question, c'est que Nicolas Sarkozy n'a cessé de lancer des thèmes et des thématiques durant son quinquennat qui était proprement proche des thématiques du Front National. On parle du halal, on parle des frites molles.
C'est quand même
un con
de
juste terminer.
De la part d'un mutant du Front de Gauche de s'attaquer au corps médiatique quand quand même le CSA a repris France 2 parce qu'une une interview de Jean-Luc Mélenchon avait été diffusée la veille de l'élection. Et que le candidat Mélenchon est une créature médiatique portée par les médias et créée par lui pour essayer de mettre en péril Marine Le Pen.
Mais bien sûr.
Alors là, il y a de la démagogie des deux côtés.
Est-ce que je peux terminer
comme d'Andrea?
Je peux terminer puisque je vous respecte beaucoup à l'ENS et j'aimerais analyser clairement les résultats. On dit qu'elle a un haut score et les médias, par exemple, ont tout de suite lancé le résultat de 20% au Front National, qui est très symbolique et qui est totalement faux, puisqu'elle fait 17,8 ou 17,9. Première chose. Deuxième chose, c'est, il faut analyser aussi le nombre de candidats. En 2002, il y avait... Écoutez-moi. En 2002, Il y avait Christine Boutin, il y avait Bruno oui. Maigret, il y avait Philippe de Villiers, il y avait les chasseurs et compagnie. Aujourd'hui, il n'y a plus personne.
Et, pas Philippe de
Villiers. Et voilà, il n'y avait plus personne et Marine Le Pen a raflé tout cela. Deuxièmement, on constate aussi que dans les grandes villes, là où les militants du Front de Gauche sont présents, puisque je vous rappelle que le Front de Gauche n'a que 3 ans d'existence et qu'il est dans le peloton de tête. Alors vrai, peut-être qu'on a été trop ambitieux de dire qu'on passera devant Marine Le Pen, mais Marine Le Pen, c'est un problème qui dure depuis 40 ans. Nous, on est là que depuis 3 ans. Donc, on va plus vite que Marine Le Pen, même si elle reste devant. Et troisième chose, dans les grandes villes, c'est-à-dire là où il y a des militants du Front de Gauche et là où on combat à armes égales avec les militants de Jean-Marie Le Pen ou de Marine Le Pen, le Front de Gauche est devant. Dans les 17 plus grandes villes de France, le Front de Gauche est devant le Front National.
Au Front National, il n'y a pas d'armes, il y a des idées. C'est relativement représentatif quand même de la façon dont le Front de Gauche aborde la vie politique.
Ne soyez pas naïfs, vous savez très bien que dans le vocabulaire, dans la sémantique, combat, campagne, militant, ce sont des termes guerriers. Et nous, on combat.
Sarkozy de récupérer les termes féministes, alors, s'il te plaît.
On combat, mais nous, on n'a absolument pas ni cité Staline ou etc., les caricatures que vous en faites. D'ailleurs, on n'est absolument pas, et je voulais revenir là-dessus, puisque ça m'a fondamentalement choqué, nous ne sommes absolument pas des staliniens. La preuve en est, c'est que notre slogan était place au peuple, que nous voulons rendre au peuple la décision de faire une nouvelle constitution de la République, rénover les relations entre les citoyens et les institutions républicaines. Nous voulons instaurer la démocratie dans tous les organes collégiaux de la vie quotidienne des Français. Et deuxièmement, pour revenir à votre Hollande contre Sarkozy partout, etc., on l'a noté, une majorité des Français n'ont pas voté ni pour l'un ni pour l'autre. Et que ce soit l'un ou l'autre qui soit élu, vous verrez très bien, la finance va déclarer la guerre et la France subira une déferlante dès les délocalisations, etc. Il faut juste une petite citation d'un individu qui détient beaucoup celui qui fait les plus grandes spéculations mondiales, qui a dit « La France doit faire ses réformes au plus vite parce que les marchés s'impatientent ». Eh bien nous, nous disons que c'est le peuple qui s'impatiente de dégager ces marchés financiers, d'instaurer une révolution citoyenne que nous appelons à nos voeux et qui viendra d'ici aux 10 prochaines années, j'en suis sûr.
Les armes, la guerre, enfin, c'est toujours le même, c'est toujours la même chose. Enfin, je suis un peu étonné.
C'est vous qui dites ça alors que vous divisez les Français constamment,
Moi, je suis un citoyen.
Mais oui, vous amusez à commenter.
98% des Français, voilà. Moi, je suis encarté nulle part, je suis le soldat d'aucune armée.
Vous êtes comme un journaliste, vous vous amusez à commenter ce que font les autres et vous avez toujours raison. Nous, on est dans l'action.
Bah, l'action, enfin, quelle action? Au plus, M. Mélenchon sera un obscur
Mélenchon
député.
Mélenchon a fait le score historique depuis 31 ans de la gauche antilibérale et nous avançons beaucoup plus vite que
Marine Le Pen. On a vu en début d'émission
qui baisse dans toutes les grandes villes.
Oui, non, je comprends pas très bien quand même. Tout à l'heure, vous attaquiez Sarkozy parce qu'il n'était que le candidat des riches et qu'il ne récoltait des suffrages qu'auprès des riches. Bon, les riches, les populations les plus aisées sont en général dans les grandes villes. Et c'est là, pourtant, vous vous en vantez que Mélenchon fait ses meilleurs scores. Alors, pourquoi n'êtes-vous pas allé chercher le peuple qui souffre, le peuple pauvre, celui des campagnes, bref, celui qui vote Marine Le Pen, alors, qui arrive quand même en tête de 2 500 000 votes.
Bon. Est-ce que d'abord, chez les pauvres, il n'y a pas que des pauvres et des gens qui souffrent dans les campagnes, malgré le fait que ces gens-là souffrent et que nous avons beaucoup d'efforts à faire là-dessus dans les campagnes? Dans les quartiers populaires, là où il y a la plus grande pauvreté, le Front de Gauche fait les meilleurs scores. Il fait les meilleurs scores. On le voit à Vaux-en-Velin, au cantonal où Marine Le Pen était à 20%. Aujourd'hui, elle est à 13% et Jean-Luc Mélenchon à 20%. Et partout, c'est pareil. À Toulouse, 70% pour Hollande et Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon en tête, en Seine-Saint-Denis et partout. Donc vous vous amusez, et c'est là la conclusion que j'ai envie de faire, le FN s'amuse à diviser les Français.
Quel score fait Mélenchon chez les ouvriers? Quel score fait Mélenchon?
9%.
Attendez, 30% chez Marine Le Pen.
C'est faux. La première chose...
c'est faux.
Est-ce que je peux parler ou pas?
Pourcentage, oui.
Vous n'avez pas d'argument. Laissez-moi parler, on fait argument contre argument. Je pensais qu'à l'ENS, ça allait être beaucoup plus calme. Chez les ouvriers...
Et ben alors moi aussi, je pensais que cette émission serait beaucoup
plus
calme.
Chez les ouvriers, la première chose, c'est l'abstention. Puisque plus de la moitié des ouvriers ne votent pas.
Pour être honnête, c'est vrai. C'est le premier poste, c'est l'abstention.
Oui. Deuxièmement, ce que j'ai envie de dire par là, c'est que le FN s'amuse à diviser les Français. On oppose les banlieues et les campagnes, on oppose les villes avec je ne sais quoi, on oppose ceux qui achètent des Doliprane avec ceux qui font des IVG, on oppose ceux qui votent du halal et ceux qui mangent du poisson le vendredi, etc., etc. Ça, on en a ras-le-bol. Et les Français en ont par-dessus la tête de ça. Nous voulons unir le pays derrière quelque chose de plus grand que nous, dans la fraternité, dans l'humour, dans
l'amour. Et monsieur Mélenchon, qui va aller faire le pitre le 1er mai avec les syndicats, lui, il ne divise pas la France, peut-être? Lui qui conspue sans cesse...
Non, il unit les travailleurs, mais à la limite, c'est...
La classe des travailleurs, monsieur, est la plus grande classe qui existe, puisque 80% des Français sont des salariés. Et vous avez...
La classe n'est pas le pays, déjà.
Attends, Louis, le problème, Mélenchon, il se place dans une optique qui est celle de la lutte des classes, d'accord? Donc il y a une désunion. Le problème de Marine Le Pen, c'est qu'elle se place dans la lutte des nationalités pour ne pas dire autre chose. Le problème, c'est que cette bonne Marine Le Pen, comme tu le dis si bien, elle triomphe dans les campagnes. Elle triomphe là où la République n'est plus, là où il n'y a plus de postes, là où il n'y a plus d'hôpitaux, là où il n'y a plus d'écoles. Drame, elle incarne non pas le retour de la République, mais la sorte de faucille qui va l'achever. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen est profondément en désaccord avec les idées de la Révolution, avec les idées fondamentales de 1789. Et il est là le vrai débat. C'est que pour vous, comme pour beaucoup, malheureusement aujourd'hui, la France, elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Tu penses qu'il y a trop d'immigrés en France, j'imagine ?
Attends, tous ces sujets-là peuvent être abordés, bien sûr, ils sont tous intéressants.
Mais c'est les sujets
fondamentaux. Je ne vois pas très bien le rapport entre la poste dans les campagnes, les immigrés et 1789.
Moi, je vais vous faire le rapport. Je vais vous faire le rapport.
S'il y a un réactionnaire dans cette élection,
c'est le rapport.
Le rapport. Les grandes figures révolutionnaires.
Le rapport, c'est que les idéaux de 1789 ont disparu des campagnes, d'accord ? Et que, elle, qu'est-ce qu'elle va faire, Marine Le Pen, pour s'adresser à ces personnes-là ? Elle leur explique qu'il y a trop d'immigrés. Parce que le fin fond de commerce de la maison Le Pen, père comme fils, c'est considéré qu'il y a trop de et d'arabes en France.
Mais ce n'est ça plus vrai.
Mais c'est vrai.
C'est maquillé différemment, mais le fond est le même.
La campagne électorale de Marine Le Pen n'a pas été axée du tout sur ces thématiques.
Vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi et vous le savez.
Des problématiques sociales, le pouvoir d'achat, l'Union européenne, mais certainement pas sur l'anti-immigration.
Sur les immigrés, les électeurs de Marine Le Pen votent principalement parce qu'ils pensent que cette femme répond à leur sentiment d'insécurité, principalement lié. Autre plein d'immigrés. Bah,
L'insécurité, elle n'est pas liée seulement à l'immigration.
Alors, j'aimerais juste qu'on établisse une petite règle, comme ça, parce que vous avez certainement déjà écouté des débats à la radio. Quand plusieurs personnes parlent en même temps et crient, on n'entend rien. Donc, il me semble qu'on parle de choses certes importantes, mais qui ne sont pas vitales. Donc,
vous pouvez parler
de manière calme, sans forcément hausser la voix, ce qui prouvera aussi que vous respectez votre interlocuteur et, surtout, les auditeurs. Merci. Donc, on va enchaîner et on va parler de la stratégie de la droite. La stratégie de Jacques Chirac concernant le Front National, ça a été, on le sait souvent, de mettre un cordon sanitaire, c'est-à-dire de ne pas en parler tout en le méprisant. Et cette stratégie a abouti au 21 avril 2002. Du coup, la droite a révisé ses positions concernant le Front National sous la houlette de Nicolas Sarkozy. Elle s'est rapprochée de ses thèses jusqu'à la copie, pour paraphraser le fameux « les électeurs préfèrent l'original à la copie » de Jean-Marie Le Pen. Adage qui fut vrai cette année, en 2012, mais qui n'était pas vrai en 2007. Mais comme l'adage a enfin réussi en 2012, la prochaine évolution, quelle est-elle ? Comment va réagir la droite face, si Nicolas Sarkozy perd aussi, mais évidemment, comment va réagir la droite face au Front National ? Peut-elle s'allier à l'extrême droite ? Va-t-il y avoir une recomposition de la droite ? Ou bien, Marine Le Pen en parle, va-t-il y avoir l'émergence d'une nouvelle droite portée par le Front National qui pourrait changer de nom ? Et je redonne la parole à Louis.
Merci.
S'il promet de ne plus crier, comme Andrea.
Je crois, Thomas, que ton analyse n'est que partiellement juste. Si le,
tu es là pour l'éclairer.
Si le RPR, merci. Si le RPR ne s'était pas rapproché du Front National dans les années 80-90, c'est que le Front National n'était pas du tout le parti représenté par Marine Le Pen aujourd'hui, et que le RPR lui-même, d'ailleurs, campait sur des positions qu'aujourd'hui, le Front National lui-même, et heureusement d'ailleurs, ne pourrait pas soutenir. Tout le monde se souvient des déclarations de M. Chirac sur le bruit et l'odeur, bon, déclarations racistes qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, j'espère d'ailleurs, serait la première à condamner. Maintenant, à savoir s'il y aura une alliance électorale ou législative. Personnellement, je ne crois pas. On est là dans le simple...
À plus long terme, même.
Il est là, le danger. Le danger, il est que tu dis que Jacques Chirac portait des discours clairement racistes que Marine Le Pen condamnerait. La seule différence, c'est que Jacques Chirac n'a jamais désigné une population comme Nicolas Sarkozy, président actuel, l'a fait quand même avec les Roms, en disant clairement, ces gens-là, on va les prendre et on va les chasser du pays. Ça, c'est ce qu'a dit et fait Nicolas Sarkozy. Tu as beau dire que Jacques Chirac, à l'époque, il parlait, il mettait le cordon sanitaire, signe de son hypocrisie. Entre Jacques Chirac, qui a dit des énormités inadmissibles qui furent condamnées à l'époque, et Nicolas Sarkozy, qui va jusqu'à ne plus seulement dire des paroles, mais faire des actes en accord total avec les idées
défendu par le Front National, il y a une vraie différence.
Je ne pense pas qu'il y ait eu d'hypocrisie de Chirac, simplement, les forces politiques n'étaient pas les mêmes. Le RPR n'était pas l'UMP et le Front National de 1980 n'était, pas, celui de 1980, et, n'était pas celui de 2018.
Et le Front National de 1980 était bien moins puissant, car la crise était moins bien puissante, car la France allait mieux. Et si le Front National est si élevé aujourd'hui, c'est vraisemblablement dû à cette crise, et c'est pour cela que la droite... soi-disant républicaine, va à ce point-là chercher des voix, parce qu'elles sont là, parce que le FN est haut, mais toujours sur les mêmes idées que 1980. Ouais. C'est la situation qui a changé, c'est pas le FN.
Oui, enfin juste, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de rejeter la responsabilité sur les partis, alors anciens ou nouveaux, enfin anciens ou actuels, sur à la limite les candidats ou les grandes personnalités politiques. En même temps, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas oublier que les résultats des élections, avant ou aujourd'hui, représentent aussi des voix du peuple. Et il faut peut-être aussi ramener la responsabilité aux votants. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a 17 ou 18% de gens qui ont voté FN, ils l'ont fait aussi en âme et conscience. Alors après, on pourra parler de l'éducation populaire ou pas. Qui a lieu ou qui a lieu mal. On peut être... et du coup, moi, si par exemple, je suis vraiment atterrée par ce score du Front National, parce que je suis atterrée, c'est pas tant parce que Marine Le Pen a réussi, parce que oui, elle a réussi, en même temps, c'est son but, il était affiché dès le départ, et c'est aussi le but, le but de toute stratégie politique, le but des élections. Moi, si je suis atterrée, c'est parce que ça signifie, en aval ou en amont, qu'il y a tout simplement tant de votants qui correspondent à ce score. Et pour moi, la responsabilité, elle vient des électeurs, et pas seulement, pas complètement, en tout cas des partis.
Donc tu as atterré parce que tu dis qu'il y a 18% d'abrutis dans le pays, c'est ça que tu sous-entends ?
Non, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont abrutis. Moi, je suis en train de me demander pourquoi ils ont voté.
Oui,
mais
a,
on
ne
peut pas simplement dire...
Ce
que je veux dire, c'est que...
Je suis un peu plus descendant qui me dérange.
Mais non, justement, par rapport...
Surtout de la part d'une femme de gauche.
Vous ne pouvez pas savoir comme je comprends David Pujadas. Je pense que je lui ai envoyé un petit mot sur son Facebook officiel.
Est-ce que je peux dire simplement un mot, puisque c'est un sujet très important. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec... Pauline, qui est à côté de moi, effectivement, les électeurs du Front National doivent être responsables de ce score-là. Ils doivent être responsables. Il n'y a plus aujourd'hui de « allez, on s'en canaille, on va voter anti-système, etc. » Aujourd'hui, c'est un vote d'adhésion. Et nous, nous allons travailler, nous allons rien lâcher jusqu'à que ces gens-là regrettent d'avoir voté Marine Le Pen et que lorsqu'ils se regarderont dans la glace, ils se gerberont dessus. Deuxièmement, moi, j'aimerais simplement signifier que Nicolas Sarkozy a fait quelque chose d'extrêmement dangereux dans cette République. Il a levé la digue qui séparait la droite républicaine du Front National. Et ça, c'est lui qui l'a fait, c'est Claude Guéant.
Ouais, merci,
et c'est
toute son équipe qui répond à ma question, c'est gentil.
C'est toute son équipe qui a fait ça. Et aujourd'hui, ils peuvent s'en plaindre ou non, mais on le voit dans l'Europe aujourd'hui que l'extrême droite s'allie maintenant de plus en plus à la droite. Et cela pourrait être très très dangereux dans notre pays. Et ils en seront, eux, responsables.
Si aujourd'hui l'extrême droite est importante en Europe, c'est parce que dans bien des pays... la population a estimé, notamment dans un contexte de crise, que l'échelle nationale, plus peut-être que l'échelle européenne, plus que, en tout cas de cette Europe qui nous est proposée, plus que l'échelle mondiale dans le cadre d'un marché mondialisé, était capable de les protéger, mais aussi de répondre à leurs attentes et de les conduire jusqu'au bonheur. Maintenant, si...
Le clocher plutôt.
Le bonheur, c'est la guerre. Hein. Je vous rappelle qu'après la crise, c'est la guerre et le fascisme tout le temps.
Oui, tenez, oui, la guerre,
ayez
le fascisme.
Ayez ça en tête. Bah, écoute, ayez tout
y,
ça en
y
tête.
Il n'y a pas de fascisme aujourd'hui. Le fascisme, c'est du côté de Mélenchon.
Oui, c'est toi qui as commencé à comparer Mélenchon à Fidel Castro. Donc, si tu veux qu'on fasse un jeu des mémoires, si tu veux faire un jeu des mémoires, on fait un jeu des mémoires et on n'hésite pas à comparer Marine Le Pen à Pétain, mais on s'amuse pas à faire ça.
Je vous rappelle.
Mélenchon, il y a quelques jours, un tout petit peu d'honnêteté intellectuelle quand même, qui a prétendu que Cuba n'était pas une dictature.
Allez, ça y est.
C'est pas vrai,
Christophe Barbier. Vous continuez.
J'entends bien. Et ben moi, je te dis que c'était Marine Le Pen qui allait au dîner des néo-nazis.
Donc, c'est pas
nazi, un
mais on ne va pas s'amuser à faire ça, à faire des guerres de mémoire. Parlons du présent et de l'avenir. Tout en ayant conscience que l'histoire existe.
Ce monsieur est ministre de l'Industrie. Alors, je suis quand même très étonné qu'on reproche à Marine Le Pen d'aller au bal de Vienne, alors que le ministre de l'Industrie est accueilli dans le Parlement de Bruxelles.
Le problème n'est pas celui qui invite, c'est celui avec qui on danse.
Un dernier mot, et je termine là-dessus. Mettez-vous ça en tête. La semaine avant le premier tour, le Front National a enterré un de ses fondateurs qui était un ancien milicien. Donc ça prouve réellement d'où vient ce parti, quelles sont ses sources. Et tous ça en tête et nous lutterons.
Mais c'est ce qui m'étonne, et c'est ce qui m'étonne dans ton soutien
sûr,
à Marine
bien
Le Pen.
Mais voilà. Mais on sait d'où vraiment. Ce parti vient.
C'est vrai que c'est un parti qui a des origines troubles, qu'il y a eu d'anciens miliciens.
Qu'il
y a eu.
Troubles, c'est fasciste.
Troubles, c'est fasciste. Qu'il y a eu d'anciens résistants. Mais le parti évolue. Bah bon, tout de même.
Il évolue ou il évolue. Il évolue, il est trouble.
le parti. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la droite républicaine aujourd'hui. Le RPR a aussi contenu ses pages sombres, ni celle de la gauche, parce qu'on peut aussi accumuler.
Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose.
Retourner dans le camp du fascisme.
Est-ce que Marine Le Pen, demain, que ce soit Hollande président et donc l'UMP explose, ou bien Nicolas Sarkozy président, et là elle aura un rôle peut-être. Enfin, dans tous les cas, est-ce qu'elle incarne demain le grand parti de la droite ?
Merci de rappeler ma question.
Qu'est-ce qui se passe ? Ça existe l'Alliance Bleu Marine, l'Alliance Nationale ? Qu'est-ce que tu penses ?
Typiquement, je pense pas que c'est qu'il soit dans les cordes ni dans l'intérêt du reste de l'UMP ou de ce qui va en sortir de s'allier fondamentalement avec Marine Le Pen.
Donc non, plutôt
donc,
pour
non. Et voilà.
Jérôme.
Moi non plus, je pense pas que ce soit l'intérêt de l'UMP de s'allier avec.
Si Sarkozy perd l'élection, ce qui est probable, l'UMP sera décapité et il faut s'attendre à une guerre des chefs à l'UMP entre Fillon et Copé. Je pense que Copé sortira vainqueur et je pense que Marine Le Pen ne recomposera pas la droite autour d'elle. C'est là sans doute son intérêt. Maintenant, il y a des divergences qui sont très importantes entre l'UMP aujourd'hui et le Front National, sur les questions économiques surtout, qui empêchent cette alliance de se faire. Maintenant, pour ces législatives, je pense qu'il y aura localement des alliances, notamment dans le sud de la France, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de directive, mais l'UMP laissera la bride sur le coup de dirigeants UMP qui, dans le cadre d'une vague rose, tenteront de garder leur siège et feront des alliances avec le Front National.
Il n'est pas dans l'intérêt du Front National non plus de s'allier fondamentalement avec l'UMP. Parce qu'on voit, on voit l'inverse aussi. Parce qu'on n'arrête pas de dire, est-ce que l'UMP va, etc. Parce que c'est le parti de gouvernement, le parti principal, etc. Mais il faut aussi réfléchir à contrario et se dire qu'au contraire, l'image de Marine Le Pen, elle est fondée aussi sur une opposition viscérale à Sarkozy.
Alors, je propose de passer vers Jean-Luc Mélenchon. Que c'est si difficile pour toi de voter François Hollande ?
Effectivement, c'est difficile.
Ouais. Pourquoi ?
C'est difficile. Bon, on a 3 bulletins dans le bureau de vote. On aura un bulletin blanc. C'est pas vraiment le style du Front de Gauche. Un bulletin Nicolas Sarkozy qui a fait un bilan catastrophique et qui n'a absolument pas cédé lorsque la classe ouvrière a lutté pour garder ses acquis sociaux, notamment pour la retraite à 60 ans.
Et un troisième bulletin
qui s'appelle François Hollande. Nous appelons à voter François Hollande. Pour une chose, pas pour voter pour lui parce que nous sommes convaincus, mais pour voter contre la droite, contre l'extrême droite, parce qu'il est temps d'avoir une alternance. Alors, entre l'alternance et l'alternative, il y a aussi un chemin. Nous sommes l'alternative, François Hollande et l'alternance.
Mais alors, pourquoi, Jean ? J'ai bien compris ça, mais pourquoi il y a cette défiance de la part de militants du Front de Gauche envers un homme qui est censé représenter pour l'instant le premier parti de gauche?
Je vais vous le dire tout de suite. D'abord, le Front de Gauche, il a une ambition, c'est de passer devant le Parti Socialiste à court ou moyen terme.
D'accord.
Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, mais on passera. Mais vous savez, on était les seuls et d'ailleurs, on sait bien
le laisser répondre à mes petites questions, innocentes qu'elles sont.
Nous allons passer devant Marine Le Pen. Je vous ai dit que Marine Le Pen court, mais nous, on court beaucoup plus vite qu'elle. Donc, on va la rattraper, ça ne fait aucun souci. Mais notre autre ambition, c'est de passer devant François Hollande, devant le Parti Socialiste. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué, nous avons analysé en Europe, Papandréou, en Grèce, Parti Socialiste, qui a laissé entrer des fascistes dans son gouvernement, qui s'est mis à genoux dans les premières 24 heures face à la finance et à la Troïka. On a vu M. Zapat... Écoutez-moi jusqu'au bout. Écoutez-moi jusqu'au bout, s'il vous plaît. Les socialistes n'ont rien dit, ils n'ont dit pas un seul mot. Les socialistes grecs n'ont pas dit un seul mot, et les socialistes français non plus. Première chose. Deuxièmement, c'est Zapatero en Espagne qui a voté pour la règle d'or, je le rappelle quand même. C'est le SPD de Gerhard Schröder qui a fait baisser les acquis sociaux et qui a fait baisser l'espérance de vie en Allemagne, comme en France d'ailleurs, qui baisse. C'est d'ailleurs un bilan qui est assez nécessaire pour ne pas voter pour l'UMP. L'espérance de vie baisse en France.
Alors, du coup, une autre question aussi, c'est bien François Hollande, comme apparemment tout le monde semble croire autour de cette table, qui arrive au pouvoir. Jean-Luc Mélenchon, il a dit qu'il n'y aurait pas de ministre. Ça, on a compris dans son gouvernement, pas de ministre. Par contre, on a bien compris qu'il ferait certainement partie de la majorité au Parlement. Du coup, pendant les 5 ans, voire les 10 ans, si François Hollande est réélu, que va durer le gouvernement de la gauche sur la France, ça va être quoi l'attitude du Front de Gauche ? Est-ce que ça va être on se tait et on aide François Hollande, ou alors on est dans l'opposition tout en étant dans la majorité, c'est-à-dire qu'on vote mais qu'on critique?
Vous savez, il y a un programme qui est très clair et qui s'appelle l'humain d'abord. C'est le cœur du Front de Gauche. C'est le programme, c'est la vente politique qui a atteint la première place, puisqu'il y a 450 000 programmes qui ont été vendus.
C'est le triomphe du capitalisme, en tout cas.
Non, puisque c'est le livre était à 2 euros qui rembourse simplement les frais d'impression. Donc c'est absolument faux. C'est plutôt la démocratisation et nous n'avons pas peur d'être aussi honnêtes et sincères de diffuser notre programme à toute la France, dans toutes les librairies, ce qu'aucun aucun parti n'a fait.
Alors sur la question...
Sur la question de l'Assemblée nationale, ben, nous avons un programme, nous allons...
Au-delà de la question sur l'Assemblée nationale, c'est que va faire le Front de Gauche dans une optique où François Hollande est élu.
Oui,
j'ai bien compris qu'on a vu qu'il y a des différences très nettes entre les deux. Tu en as parlé, mais alors c'est quoi la solution ?
Nous avons un programme et nous ne transigerons pas avec notre programme. Notre programme, il est là, présent, et nous le garderons. Et ben, concrètement, s'il y a des votes comme la taxation à 75% au-dessus du premier million, nous serons sûrement pour. Si M. Hollande souhaite inscrire la règle d'or, par exemple, nous serons effectivement contre lui, puisque je vous rappelle quand même que le Parti Socialiste n'aura plus aucune excuse. Sénat, il a la présidence, il a l'Assemblée, il a les collectivités territoriales. S'il fait l'austérité, s'il fait la rigueur, l'alternative sera Jean-Luc Mélenchon et le Front de Gauche. Point barre.
Pas d'opposition, mais un soutien négocié et un soutien à la carte. Donc, potentiellement, une majorité parlementaire très fragile à l'Assemblée.
Non, nous n'aurons aucun ministre, nous n'appartiendrons pas à la majorité, nous ne transigerons pas avec notre programme. Et nous, quand Jean-Luc Mélenchon appelle à voter sans condition pour François Hollande, c'est un pour battre à droite et c'est deux pour ne modifier aucune ligne de notre programme. Nous ne ferons aucune négociation, aucune condition. Nous ne transigerons pas et le fond prévaut sur tout. C'est l'intérêt général qui prime et c'est l'honnêteté politique. Nous avons un programme, nous le respecterons jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous arrivions au pouvoir et la victoire est proche, je l'imagine.
Un parti de gens tristes. Enfin, c'est un peu désespérant.
De
gens tristes. Vraiment. La gauche, elle arrive au pouvoir tous les 15 ans et c'est trop peu. Et je le regrette. Et quand elle arrive, vous ne la soutenez pas. Eh ben, je trouve que c'est à désespérer. Parce qu'en attendant, je ne sais pas si moi je suis fasciste, mais moi dès le début.
Ah, vous savez pas.
Pose la question.
Vous imaginez qu'il se pose la question quand même.
Alors dites-le un petit peu que vous la voulez cette victoire de Hollande. Dites-le un petit peu que vous allez la soutenir.
Mais est-ce qu'on la veut ?
C'est trop facile sinon d'être ensuite dans l'opposition qui vous permettra alors d'avoir permis
c'est
à
vous, c'est moi.
D'être élu et ensuite de ne pas soutenir cette politique et donc d'en être redevable.
Non.
Eh ben non.
Moi, non.
Engagez-vous un petit peu. Moi je soutiens François Hollande.
Nous sommes engagés pleinement.
Meilleur candidat que Nicolas Sarkozy. Je crois que ce sera même un bon président.
Oui, non, moi je voulais juste dire que là on a l'incarnation. À mon avis, on a une incarnation typique de pourquoi beaucoup de Français ont voté le FN. C'est tout simplement parce que, par exemple, on a ici Louis, qui pense ce qu'il pense et avec lequel je ne suis pas fondamentalement d'accord, évidemment, mais qui a quand même un discours, bon, certes, voilà, sur lequel on peut revenir, mais qui reste construit et courtois, tandis qu'en face, on a quand même des gens qui ont pu voter Front de Gauche et qui se montrent très agressif. Et moi, par exemple, une des raisons pour lesquelles je n'ai pas aimé Mélenchon, sa campagne, c'est pas tant par rapport, bon, quoique lui, il a pu être virulent et agressif, mais c'est quand même aussi parce que je pense qu'il est très desservi par ses propres militants, en fait. Voilà.
Très bien, mais c'est très bien, vous êtes très pantouflard. Sachez une chose, lorsque vous connaissez un peu l'histoire, c'est qu'à la fin, c'est nous contre eux. C'était le cas chez Pinochet, c'était le cas en Europe, donc cessez d'insulter des résistants. Cessez d'insister.
Rejoignez François Hollande clairement.
Voilà, rejoignez
et François
Hollande.
Et
tant mieux. Voilà. Ben
et c'est tant mieux. L'UMP, le PS, le Front National et tous les partis démocratiques ont de beaux jours devant eux.
Ouais, moi, je te propose un truc, Jérôme.
On va parler gouvernement
de Bayrou maintenant. On va faire une émission à deux sur François Bayrou. Ça sera beaucoup plus calme. Un mot rapide sur François Bayrou, si tu veux.
Ça m'intéresse pas la manière dont le débat a tourné là depuis bien une demi-heure.
Pourquoi ?
Non mais enfin bon, parlons de Bayrou si tu veux. Bayrou a fait 9,18% si je me trompe pas.
Oui, c'est ça.
C'est clairement un mauvais score. On avait dit en tout 10%, ce serait un mauvais score.
Et est-ce que c'est pas aussi symptomatique de cette campagne
de le voir doublé en l'occurrence par Jean-Luc Mélenchon et par Marine Le Pen, ben ça illustre très bien ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire le fait que les passions, l'excitation des passions prend le pas sur les appels à la raison et que toute cette outrance langagière dont on vient d'avoir un magnifique exemple en est la preuve.
Enfin, il peut y avoir le plaisir de débattre aussi, on ne peut pas incarner que la force tranquille.
Il y a le plaisir de débattre, je veux bien, mais s'insulter de Staline d'un côté, de fasciste de l'autre.
Mais c'est pas je ne vais pas être agressif ou quoi, moi c'était un plaisir de débattre. Puisque c'est la passion.
Alors, je dirais qu'il est raisonnable d'être passionné.
Alors, Amos a noté sur
une feuille, raisonnable.
Front contre front, mal à la tête. C'est un petit peu vrai. Et je rejoins la conclusion de Jérôme. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez aller prendre votre Doliprane maintenant. Alors, avant le deuxième tour, on vous propose aussi un débat. Alors, sur ma petite fiche, j'avais écrit, virgule, riche et animé. En fait, on garde riche, on enlève animé par rapport à ce qui vient de se passer là. Alors c'était un débat, comme je le disais au début de l'émission, entre deux jeunes militants engagés de l'UMP et du Parti Socialiste. Et pour être honnête, il y a quand même beaucoup plus de fond qui est développé dans le débat que l'émission.
C'est vous qui animez. Hein.
C'est moi qui anime. J'en suis d'ailleurs désolé, je vais écrire à Fabien, je démissionne. Bon, en tout cas, le débat et l'émission qui tout de même a permis, je l'espère, de comprendre les enjeux du second tour et surtout a très bien résumé, moi je trouve, la campagne telle qu'elle a été. Comme
cacophonique.
Jérôme l'a bien dit, cacophonique, rocambolesque, c'est Pauline qui avait dit ça au début, comme quoi, et surréaliste aussi. Mais écoutez, on a tout ça. Je vous donne rendez-vous le dimanche 6 mai, chers électeurs, dans votre bureau de vote. Oui, je serai là, vous me verrez dans l'isoloir et tout. Oui. Parce qu'il faut aller voter, parce que la démocratie ne peut pas se faire sans vous. Et surtout, je vous donne rendez-vous de manière un peu plus pragmatique après le second tour pour une émission spéciale, peut-être moins animée, mais on ne sait jamais. Hein. Et d'ici là, surtout et plus que jamais, et surtout après cette émission, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.